douter de tout, ce n'est pas nécessairement négatif. Rendez-vous compte que tout notre système éducatif est basé sur le fait d'essayer de faire en sorte que nos enfants doutent le moins possible d'eux, de leurs compétences, qu'ils aient des certitudes. Et d'ailleurs, c'est vrai que tout le discours qui est entretenu dans notre société moderne, c'est que moins on doute, plus on a des chances de réussir. Alors, dans cette série de vidéos, vous savez maintenant que j'essaye toujours de vous montrer l'envers du décor. J'essaye toujours de tourner votre vision des choses d'une autre manière. Et j'aimerais aujourd'hui vous présenter les 4 avantages que vous auriez à douter systématiquement de tout. Alors vous allez me dire, mais Jean-Jacques, t'es tombé sur ta tête aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Douter, c'est quand même quelque chose qui est négatif. C'est quelque chose qui nous fait perdre nos moyens et qui peut détruire aussi les relations. Alors évidemment, il y a doute et doute. Alors je voudrais tout de suite vous dire d'abord ce que j'entends par doute et ce que n'est pas le doute, parce qu'il y a un doute sain, si vous voulez, et puis il y a un doute malsain. Mais je voudrais vous parler des avantages du doute sain, du fait que le doute systématique est une posture intellectuelle et une posture de vie qui peut vraiment vous faire grandir en conscience, en amour et en compétence, ensemble et individuellement. D'accord? Bien. Alors, si vous êtes prêts à me suivre, je vais vous faire un petit voyage dans le monde de la philosophie et des sciences, et même dans le monde de la philosophie des sciences. Parce que c'est d'abord Nietzsche, le philosophe Nietzsche, qui est un des philosophes que je préfère, qui disait un jour dans un de ses livres, « Ce n'est pas le doute, mais la certitude qui rend fou ». Alors, on pourrait se demander, mais que veut dire notre ami Nietzsche en disant « mais ce n'est pas le doute qui rend fou les hommes, mais c'est la certitude ». Et c'est vrai que lorsqu'on a des certitudes, vous savez, des gens qui sont sûrs de leurs convictions, qui sont sûrs de leurs paroles, etc., eh bien, ils risquent toute une série d'inconvénients dont ils ne se rendent pas nécessairement compte. Le premier inconvénient, c'est que ça les rend sclérosés, c'est que ça les rend psychorigide. Vous savez, les gens qui ont des certitudes, hein, ou une fois qu'ils ont cru quelque chose, eh bien, ce quelque chose va être vrai jusqu'à la fin de leur jour. Bon sang, mais qui peut prétendre, à l'âge de 20 ans, avoir trouvé la vérité et que cette vérité va être la même jusqu'à l'âge de 70, 80 ans? Alors que le monde est en perpétuel changement, alors que le monde nous amène à nous repositionner de façon permanente. Donc, mais effectivement, j'ai connu des gens qui, de mon point de vue, sont vieux à l'âge de 20 ou 25 ans, parce qu'ils se sont enfermés dans une sclérose de pensée, ils ont des certitudes, et ces certitudes, ils ne vont pas en changer jusqu'à la fin des jours. Bien, autre inconvénient, des certitudes que l'on a, c'est que ça nous empêche de progresser. Et ça empêche toute manière et toute forme de progrès. On connaît ça très très bien en science. Je vous raconte une petite anecdote rapide. En 1899, donc ça ne date pas d'hier, Lord Kelvin, qui était un physicien très réputé et en plus un noble de l'aristocratie anglaise, avait, grâce au fait qu'il était fortuné, avait invité les plus grands scientifiques du monde pour se réunir dans un colloque exceptionnel en 1899. Donc il faut vous rendre compte que à l'époque, on ne prenait pas l'avion pour se déplacer à Londres. Il fallait prendre un bateau, ça prenait du temps, ça coûtait de l'argent, etc. etc. Mais bon, Lord Kelvin a réuni les plus grands scientifiques du monde en 1899 pour faire un point, un bilan de l'état de la science, puisqu'il voulait préparer de façon digne l'entrée dans le XXe siècle. Et en disant, finalement, Ce serait intéressant de regarder ce que nous avons accompli, nous les scientifiques, sur les 2-3 derniers siècles qui viennent de s'écouler, depuis la Renaissance, je dirais, donc depuis Descartes, Pascal, Newton, Galilée, Kepler, Copernic, etc., jusque maintenant avec des gens comme Michelson, comme Kelvin et d'autres dont j'oublie les noms. Bien. Et donc, tout ce beau monde, la crème scientifique, s'est réuni et ils ont fait, en fin de congrès, une déclaration, une conférence de presse devant la presse internationale avec beaucoup de solennité en disant « Voilà, nous terminons le 19e siècle et nous avons fait le bilan de la science. » Et ce que nous pouvons déclarer, c'est que nous, les scientifiques, que ce soit des chimistes, des physiciens, bon, il y avait déjà un petit peu de biologie, etc., il n'y avait absolument pas de neurosciences ou d'autres disciplines, eh bien, nous pouvons considérer que nous avons expliqué pratiquement tous les phénomènes naturels. Donc, nous avons quasiment terminé notre travail. Il reste quelques broutilles à éclaircir, qui prendra peut-être quelques années, mais nous plaignons du fond du cœur, les générations des scientifiques à venir, parce qu'ils n'auront plus rien à faire, puisqu'il n'y a plus rien à découvrir, et ça, nous pouvons vous le dire avec certitude. Ça, c'était en 1899. Il y restait quelques broutilles qui allaient occuper quelques scientifiques pour quelques années. Alors, c'est vraiment extraordinaire comme position intellectuelle parce que quand on regarde maintenant avec le recul, parce que c'est toujours avec le recul qu'on peut regarder les choses avec un autre regard, eh bien, au XXe siècle, rien que dans le domaine de la physique, qui est un domaine que je connais bien puisque j'ai une formation en physique de l'université de Namur, il y a 2 théories qui ont bouleversé 90% des connaissances en physique. Et ces 2 théories sont la physique quantique, qui est née en 1900 et qui a été validée en 1905, puis 1911, jusqu'en 1927, et la relativité restreinte et générale, qui ont été également développées entre 1905 et 1923. C'est-à-dire que, alors qu'en 1899, Lord Kelvin disait « il n'y a quasiment plus rien à découvrir et on a tout expliqué », eh bien, moins de 30 ans plus tard, 2 théories étaient venues bouleverser 90% des conceptions que les physiciens avaient du réel. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que, enfin bon, c'est une petite illustration, je ne vais pas aller plus loin dans mes commentaires à ce niveau-là, mais il faut bien vous rendre compte que la position de Lord Kelvin, qui était de dire « nous sommes sûrs que nous avons tout expliqué et il n'y a plus rien à remettre en question, il y a juste quelques petits trucs à régler », empêchait, si on était resté bloqué là-dessus, si on n'avait pas osé être iconoclaste et être rebelle par rapport à cette position de certitude, eh bien, il n'y aurait eu aucun progrès possible dans le monde de la science. Mais je pourrais vous faire les mêmes démonstrations au niveau de la chimie, au niveau de la biologie, au niveau des recherches sur le cerveau, etc., au niveau de l'astronomie. Écoutez, tout a été bouleversé au XXe siècle. Et aujourd'hui, il y a encore des scientifiques qui prétendent qu'ils ont tout expliqué. Mais ils sont, je dirais, aussi stupides et aussi psychorigides, et ils empêchent toute possibilité de progrès que ne l'était Lord Kelvin. Sauf qu'on n'a pas encore assez de recul. Donc, je vous dirais, méfiez-vous de tous ceux qui vous disent « ouais, c'est démontré scientifique, ça c'est sûr, c'est certain ». Dans le domaine de la médecine aussi, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que dans l'histoire de la médecine, à un moment donné, on ne jurait que par les saignées. Aujourd'hui, on regarde ça en disant « mais quelle pratique barbare c'était !» Mais à l'époque, c'était considéré comme le protocole qui pouvait régler à peu près tous les problèmes. Par la suite, on ne jurait que par la vaccination, et d'ailleurs, il y a énormément de défenseurs de la vaccination qui disent aujourd'hui, la vaccination, ça ne se discute pas. La ministre de la Santé française a déclaré en 2016, la vaccination, ça ne se discute pas. Alors, quand j'entends ce genre de choses, quelles que soient, je dirais, mes convictions, les informations que j'ai, mais dès que j'entends quelqu'un qui affirme une certitude, moi, je prends 2 pas de recul en disant, pourquoi est-ce que ça ne se discuterait pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas remettre les choses en question ? Voyez les inconvénients que l'on court. Et donc, du coup, troisième conséquence négative, je dirais, d'être dans la certitude, c'est que vous devenez victime de vos croyances. C'est-à-dire que une fois que vous avez une croyance, eh bien vous allez vivre tout le reste de votre vie en étant attaché à ces croyances qui peut-être entre-temps se sont avérées complètement rétrogrades, complètement inadaptées. Donc, quel est l'avantage de douter ? Et ça, j'ai découvert cet avantage de douter lorsque j'ai quitté le monde de la science. Je faisais un doctorat en physique quantique théorique et j'ai donné ma démission parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m'enfermer dans une démarche monodisciplinaire et je voulais aller vers une démarche pluridisciplinaire pour mieux comprendre. Vous savez, en physique quantique, qui était ma discipline, on se pose tellement de questions sur la nature du réel, la nature de la réalité, et j'aurai l'occasion probablement de faire une série de vidéos sur la physique quantique, puisque je peux parler en connaissance de cause, contrairement à beaucoup de gens qui s'improvisent spécialistes de physique quantique mais qui ne connaissent rien en physique. Bon, ça c'est une petite parenthèse comme cela, en passant, mais on se pose tellement de questions sur la nature du réel qu'à un moment donné, on a envie de se tourner naturellement vers la philosophie, puisque la philosophie, c'est la métaphysique. Et étymologiquement, vous savez que j'aime l'étymologie, métaphysique, métaphousis, en grec, ça veut dire ce qui est au-delà de la nature. Or, la métaphysique, c'est une branche de la philosophie. Donc, je suis passé de la physique à la métaphysique. Je suis passé de l'étude de la nature à l'étude de ce qui est au-delà, de ce qui est derrière la nature. Bien. Et j'ai eu le grand plaisir d'avoir, d'être en contact avec la pensée de Descartes. Parce que Descartes, c'est quelqu'un qu'on considère comme étant le père du cartésianisme, c'est-à-dire du père de la démarche rationnelle, de la démarche qui se fonde sur des certitudes solides. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on dit que la physique, elle fait partie, avec les mathématiques, des sciences dures, hein, des sciences solides, des sciences qui sont bien établies, etc. Mais quand on regarde l'histoire de Descartes, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça me prendrait trop de temps dans le cadre de cette vidéo, mais Descartes a fondé toute sa démarche philosophique et scientifique sur ce qu'il appelait la démarche du doute systématique. Et d'ailleurs, il n'a jamais dit tel quel cogito ergo sum. Vous savez, on dit toujours, ah oui, la fameuse phrase de Descartes, hein, tout le monde dit ça, la fameuse phrase de Descartes, c'est « je pense, donc je suis », hein, cogito ergo sum. Savez-vous que Descartes n'a jamais dit cela de cette façon-là ? Ce que Descartes a dit, c'est « dubito ergo cogito ergo sum ». Je doute, donc je pense, donc je suis. Dubito ergo sum, je doute donc je suis. C'est le fait que je suis un être humain doutant, qui doute, qui fait que je suis réellement vivant, que je suis pleinement vivant. C'est-à-dire, alors c'est ici que je vais venir aux avantages maintenant du doute systématique, parce que douter systématiquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une posture de vie qui ne consiste pas, donc je vais d'abord vous dire ce que n'est pas le doute. Donc ce n'est pas le doute idiot, ce n'est pas le doute suspicieux, en disant « ouais, t'es sûr de ce que tu dis là ? Ouais, je te crois pas, etc. » Non, c'est le doute négatif, si vous voulez, ça c'est le doute stupide. Il ne s'agit pas non plus d'adopter l'attitude que vous retrouvez sur plusieurs sites internet qui s'intitule « les sceptiques », hein. Il y a les sceptiques du Québec, il y a les sceptiques, enfin bon, il y a plusieurs communautés, je dirais, sur Internet et ailleurs, qui se présentent comme les sceptiques. Et ces sceptiques, en réalité, quand vous regardez, c'est assez, je dirais, c'est assez triste de voir leur attitude intellectuelle, parce que leur attitude consiste à rejeter tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne fait pas partie de la pensée dominante, tout ce qui n'est pas reconnu par le mainstream science. Hein? La science mainstream, la science dominante. Or, on sait, et ça je l'ai appris en étudiant l'épistémologie des sciences, en étudiant la philosophie des sciences, on sait que les sciences ne font de progrès que grâce aux marginaux. Hein? La physique quantique, ce sont deux marginaux qui en ont jeté les bases. Et au départ, ils ont été complètement rejetés par le reste de la communauté scientifique. Ce n'étaient pas des gens qui étaient dans le mainstream, qui étaient dans le courant dominant. C'était des gens qui étaient marginaux. Il y avait notre ami Max Planck, qui était un mathématicien, qui était en train de créer une nouvelle théorie qui était les statistiques, parce qu'à l'époque, les statistiques n'existaient pas. Donc, c'était même pas un physicien. Et d'autre part, il y avait Einstein, qui avait été viré de l'école parce qu'il était inadapté à l'école, et qui était un petit scribouillard au bureau des brevets en Suisse, à Berne, si mes souvenirs sont bons, et en bon fonctionnaire qu'il était, il avait beaucoup de temps à ne rien faire, et donc il passait son temps à lire les articles scientifiques. Et quand il est tombé sur l'article de Max Planck, il s'est dit, tiens, intéressant son truc. Mais à l'époque, Einstein était un marginal, vous voyez. Donc, je reviens aux sceptiques, le doute ne consiste pas à dire, ah ben ça, ce n'est pas reconnu par la position officielle en science, donc c'est faux. Ça, je dirais, ce n'est pas du doute, ce n'est pas du scepticisme, c'est du combat d'arrière-garde, c'est de la défense des anciennes conceptions du monde qui empêchent la croissance, qui empêchent la nouveauté, qui empêchent la créativité. Hein, c'est de nouveau le même Max Planck qui disait « En science, ce ne sont pas les nouvelles idées qui triomphent, mais ce sont les défenseurs des anciennes idées qui finissent par mourir. » Et moi, j'adore cette citation parce que finalement, c'est ça. Hein, les sceptiques, si vous voulez, ce sont des gens qui défendent leur certitude jusqu'à la mort, malgré les évidences, malgré les faits qui, à un moment donné, viennent dire « Écoute, ta position explicative ne tient plus. » Donc, le doute systématique ne consiste pas en cela. Alors, j'avais encore d'autres choses. Alors, le doute n'est pas non plus le négativisme, si vous voulez. Hein, ce n'est pas du négativisme en disant « Ouais, je doute de tout, je doute que la vie ait un sens, je doute que Dieu existe, je doute que l'amour existe, je doute qu'il y ait un avenir à la société, etc. » Non, ça c'est du négativisme, ça c'est broyer du noir, etc. Et c'est clair que quand je vous invite à douter de tout de façon systématique, je ne vous invite pas à ces choses-là. Je vous invite pas à être suspicieux, je ne vous invite pas à être idiot, en critiquer de façon idiote systématique, je vous invite pas à être les défenseurs des anciennes théories qui ne tiennent plus debout à un moment donné, et je ne vous invite pas à être négatif de façon permanente. Non, ça... c'est quelque chose qui va vous entraîner vers une vie qui ne sera pas très intéressante. Par contre, il y a une façon très saine de douter. Et cette façon saine de douter va vous procurer 4 avantages principaux. Premier avantage, c'est que ça va vous garder jeune, je dirais. Ça va vous garder dans une souplesse. Ça va vous garder en mouvement. C'est-à-dire que le fait de douter de tout va faire que vous n'aurez dans la vie aucune certitude. Personnellement, moi, Jean-Jacques Rêvecoeur, je n'ai aucune certitude. Par contre, j'ai des convictions. Est-ce que vous voyez la différence entre une certitude et une conviction ? Une certitude, c'est quelque chose qui se trouve au niveau du mental, d'accord ? C'est « je crois à une théorie ». Une conviction, c'est plus quelque chose au niveau du cœur. C'est « avec les expériences que j'ai faites jusqu'à présent, j'ai la conviction que ». Jusqu'à preuve du contraire. Et cette petite phrase, je vous invite vraiment à la mettre maintenant dans votre vocabulaire. Ma conviction c'est, ou je suis convaincu que, jusqu'à preuve du contraire. Et quand vous dites jusqu'à preuve du contraire, ça veut dire vous gardez une souplesse, vous gardez une ouverture. Et ça, c'est le deuxième avantage, je dirais, c'est que ça vous laisse ouvert à de nouvelles découvertes, ouvert à de nouvelles théories, mais aussi ouvert à rencontrer les autres. Parce que quand vous êtes enfermé dans vos certitudes, vous êtes en train d'établir des murs qui font que vous n'êtes plus capable d'entrer en communication avec quelqu'un qui ne pense pas comme vous ou qui a vécu des expériences différentes. Vous savez, quelqu'un qui vous dirait « Oh ben tu sais, moi je suis mort cliniquement à l'âge de 18 ans et je flottais au-dessus de mon corps et j'ai vu les médecins me réanimer, etc. etc. » Et puis vous, dans vos certitudes, vous dites « Ouais, ben non, ça c'est des hallucinations, ça n'existe pas, non, ben, t'as juste cru que tu vivais ça. » Là, vous êtes en train de couper la communication, vous êtes en train de vous fermer, alors que l'expérience de l'autre pourrait justement vous enrichir. Donc, ça, c'est le deuxième avantage, c'est l'ouverture qui vous permettrait un enrichissement. Troisième avantage, du coup, c'est que cette attitude de doute va vous permettre d'être dans une démarche d'évolution permanente. Ça va être une démarche où, en permanence, il y a des choses nouvelles qui vont arriver dans votre vie. Vous allez pouvoir justement grandir en conscience, en amour et en compétence. Parce que qui dit grandir, dit que nécessairement, vous allez devoir laisser tomber un certain nombre de choses pour vous ouvrir à des nouvelles choses. C'est ça la croissance. La croissance, c'est d'être dans une évolution permanente au niveau de vos attitudes, au niveau de vos pensées, au niveau de vos croyances, au niveau de vos habitudes culturelles, etc., etc., au niveau de votre conception de la spiritualité, de Dieu, etc., etc. Donc ça, c'est le troisième gros avantage du doute, c'est que grâce au doute, vous allez être en évolution permanente, puisque rien n'est jamais acquis. Et même sur le plan relationnel, le doute systématique, le doute sain, c'est pas être suspicieux vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de votre conjoint ou de votre conjointe, ou vis-à-vis de vos enfants, c'est avoir cette capacité d'émerveillement, avoir cette capacité de dire « Waouh, là je suis quotidiennement émerveillé, étonné de ce que l'autre me partage, ce que l'autre manifeste, ce que l'autre vit, etc. » Et là, je suis dans une permanence d'évolution. Quatrième et dernier avantage du doute systématique, il y en a peut-être d'autres, c'est que ce doute systématique va vous laisser dans une attitude de créativité, va vous laisser dans un potentiel de créativité permanent. Parce qu'à partir du moment où on doute des anciennes théories, où on doute de nos anciennes croyances, eh bien, justement, vous allez pouvoir faire de la place à des nouvelles conceptions des choses. Donc, il va y avoir toute une créativité. Si Max Planck n'avait pas douté de la déclaration de Lord Kelvin quelques mois plus tôt, parce qu'évidemment, Max Planck a eu la puce à l'oreille en disant « quelques broutilles, c'est quoi ces broutilles ?» Et donc, il a été chercher ces broutilles en disant « Ah ah, c'est des broutilles qu'ils ne sont pas parvenus à expliquer par la physique classique jusqu'à présent, mais voyons ça de mon point de vue de mathématicien et de statisticien. » Waouh ! Et là, il a eu une idée. Ben, il a eu une idée complètement créative. Et il a proposé quelque chose que personne n'avait jamais imaginé pour interpréter ce qu'on appelait à l'époque l'effet ultraviolet, hein, la catastrophe ultraviolette. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est le fait d'avoir douté qui lui a permis de créer quelque chose de nouveau. Donc, en résumé, souvenez-vous une fois de plus de cette citation de Nietzsche qui dit « Ce n'est pas le doute, mais la certitude qui rend fou. » Et la folie, d'après Nietzsche, c'est en fait le fait de s'enfermer, d'être sclérosé, d'être dans cette psychorigidité. Alors qu'il y a énormément d'avantages à s'ouvrir à l'inconnu, à s'ouvrir à l'incertitude pour pouvoir aborder des mondes et des univers nouveaux. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur afin de grandir en conscience, en amour et en compétence. Quatre choses à vous dire rapidement. Première chose, merci pour tous les commentaires que vous laissez sous les vidéos. Continuez comme ça, j'adore vous lire, j'adore vous répondre et vous enrichissez de cette façon la communauté apprenante de tous ceux qui fréquentent cette chaîne YouTube. Deuxième chose, vous voulez aller plus loin, vous voulez avoir d'autres réflexions complémentaires par rapport au sujet d'aujourd'hui, eh bien voici mes deux suggestions du jour. Il vous suffit de cliquer sur une des deux images pour aller plus loin dans la réflexion qui a été menée aujourd'hui. Troisième chose, si vous voulez être prévenu de chaque mise en ligne d'une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, eh bien cliquez sur la petite icône qui se trouve en bas à droite de l'image pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Quatrième et dernière chose, merci à tous ceux qui partagent déjà le lien des vidéos à ceux qui leur sont chers. Je pense qu'en faisant comme cela, vous faites une différence dans la vie de ceux qui vous sont chers et en leur proposant gratuitement les réflexions que je vous partage tous les vendredis matin. matin. Alors, à très très bientôt. Merci pour votre coopération, merci pour votre fidélité, merci pour votre engagement à grandir en conscience, en amour et en compétences.